Ben allô tout le monde, mon nom c'est Dr. Jules Cormier, je suis médecin, athlète et nutritionniste. Puis bienvenue à mon podcast, où je vais parler de preuves scientifiques qui appuient un régime à base de plantes dans le but d'ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. La nutrition basée sur des preuves m'a redonné ma santé, puis à ce moment, mon but, c'est de vous aider à retrouver la vôtre. Ben, hello tout le monde. On va faire un autre épisode en français aujourd'hui avec un special focus sur le cancer. On est rendu pretty good à diagnostiquer des cancers tôt, puis à les dépister avant qu'ils soient trop dangereux dans beaucoup des cas, but on n'est pas that great à les prévenir. So, c'est sûr que les maladies cardiovasculaires sont le premier tueur globalement, mais le cancer est right sous ses talons. En deuxième place, comme cause de décès, est le cancer, avec le cancer du sein, du côlon puis de la prostate, qui sont parmi les plus grands tueurs. Puis, ces trois cancers-là tout seuls comptent pour à peu près 50% des diagnostics de cancer. So, si on regarde les cancers les plus prévalents, surtout chez la femme, on a le cancer du sein, qui est le plus commun, puis ensuite de ça, le cancer colorectal, puis ensuite, le cancer de l'utérus. Ensuite, en quatrième place, thyroïde, ensuite mélanome, puis ensuite, on a d'autres sortes de cancers. En général, ça, c'est les cancers les plus communs chez la femme. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate, ensuite, le cancer colorectal, ensuite, le cancer de la vessie, puis là, avec le mélanome. So, on voit qu'il y a comme une trend où ce que l'homme puis la femme, c'est les cancers de prostate puis sein en première place, mais le cancer colorectal finit par être comme genre juste en deuxième place chez les deux sexes. So, faut vraiment faire attention avec le cancer colorectal because que autant qu'il y a peut-être moins de airtime que les autres sortes de cancers, c'est un cancer qui est quand même vraiment, vraiment commun puis vraiment dangereux. Ben, la beauté du cancer du côlon, c'est qu'il peut en avoir une, c'est que ça nous... Le cancer, il va originer d'un polype qui, avec les années, va devenir cancéreux. Et donc, il nous donne une chance de le dépister. So, il y a de quoi qu'on appelle des polypes. Des polypes, on va appeler ça une genre de croissance. On va comparer ça à un skin tag. C'est pas un skin tag. Un skin tag, c'est complètement bénin, là. Mais un polype, c'est une genre d'excroissance qui va originer du lining de l'intestin. Puis, des fois, ça peut prendre 5-10 ans avant qu'il y ait une transformation cancéreuse ou précancéreuse de ce polype-là. À peu près un polype sur 5 ans va avoir cette transformation-là. Puis, l'idée à ce qu'on appelle un adénocarcinome du côlon ou un cancer du côlon. La beauté de ça, c'est si on fait une colonoscopie puis on le pogne de l'avance, on est capable de couper ce polype-là avec un genre de snare. Il peut être brûlé durant la procédure de la colonoscopie puis ensuite analysé. Mais si qui est enlevé durant la colonoscopie, ben, ce polype-là a jamais la chance de devenir cancéreux puis de causer des problèmes. C'est pour ça qu'en termes de prévention, c'est comme vraiment important de se faire dépister pour des polypes ou de se faire dépister pour le cancer du côlon, because il nous donne une chance de le dépister. Il nous donne une chance de l'éviter. Si on regarde, par exemple, on parlera du diagnostic puis du dépistage plus tard, mais si on commence avec la prévention, ben, les premières affaires qu'on peut faire au niveau de lifestyle pour pas avoir du cancer en général, ben c'est d'avoir une bonne nutrition, une bonne management du stress, une bonne routine de sommeil, une hygiène du sommeil, puis d'éviter des substances à risque comme c'est de l'alcool, la cigarette ou des drogues. On faut aussi considérer à rajouter l'exercice parce qu'on sait que l'exercice a aussi été démontré d'améliorer puis de réduire le risque de souffrir de toutes les maladies chroniques, incluant les cancers. Si on focus purement sur la nutrition. Puis qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la nutrition? Mais les main risk factors au niveau de la nutrition pour faire du cancer sont très bien connus, puis incluent les viandes transformées, les processed meat, les viandes rouges, des aliments ultra transformés ou du ultra processed food, puis aussi des excès de sodium. Si ensuite qu'on parle du lait spécifiquement, des produits laitiers spécifiquement, ben ça dépend. Les produits laitiers ont été associés à certaines sortes de cancers, mais au niveau du cancer du côlon spécifiquement, la contenu en calcium des produits laitiers semble avoir même un effet protecteur au niveau du risque. Okay? Si qu'on regarde purement au niveau de l'augmentation des risques de cancer du côlon avec des viandes rouges et des viandes transformées, le risque de cancer augmente de 18% pour chaque tranche de 50 grammes de processed meat, de viande transformée. Puis processed meat, on parle du bacon, des saucisses, des hot dogs, on parle des turkey ou ham slice, des deli meat comme du pepperoni, du salami, du beef jerky par exemple, serait un genre de processed meat. So, une augmentation du risque de cancer démontrée dans les études de 18% pour chaque 50 grammes de processed meat. 50 grammes, c'est l'équivalent de un hot dog, 3 slices de bacon ou 2 slices de ham. C'est half de la size d'un paquet de cartes. C'est très petit comme quantité. Puis on a aussi une augmentation de 17% du risque de cancer pour chaque tranche de 100 grammes de viande rouge. Sur 100 grammes, c'est l'équivalent d'à peu près 3 à 3,5 onces de viande. C'est la size d'un paquet de cartes. La plupart du monde, quand ils vont manger un steak, ils vont pas juste manger 3 onces de steak. So, faut garder en tête que 100 grammes de viande rouge puis 50 grammes de processed meat, c'est relativement facile à se rendre là. Puis c'est pour ça que la World Health Organization ou l'Organisation mondiale de la santé a classifié les viandes transformées comme un carcinogène de classe 1. Ça veut dire qu'on est 100% certain qu'il y a une relation dose-dépendante entre la dose de processed meat puis le risque de cancer. Puis aussi, les viandes rouges sont un carcinogène de classe 2, qui veut dire qu'il y a probablement un risque à plus haute dose. Puis là, dans ce contexte-là, la dose est de 100 grammes de viande rouge. Puis les effets carcinogènes des viandes rouges, des viandes transformées, sont directement reliés à des composés qu'il y a dans ces viandes-là et des composés qui sont produits quand on les cuit. So, c'est sûr que priorité numéro un, quand ça va venir à éviter de faire un cancer du côlon, devrait être de réduire ou même de restricter complètement les ingrédients, les composés chimiques qui ont été directement associés au cancer, comme les viandes rouges et les viandes transformées. Mais il faut aussi garder en tête que d'avoir une diète généralement anti-inflammatoire puis remplie d'antioxydants peut aussi offrir une certaine résilience, une certaine base de protection contre le cancer. L'inflammation joue un rôle central dans le cancer puis dans les maladies cardiovasculaires. Puis on sait que les plantes ont en moyenne 64 fois les antioxydants que les produits animaux en moyenne. Et donc, on devrait être en train de probablement compter des couleurs au lieu de compter des calories, sachant que les couleurs sont les antioxydants, sont les composés phytochimiques dans les plantes qui offrent une protection contre le cancer. Ça prendrait 30 slices de pizza pour avoir autant d'antioxydants que dans une tasse de bleuet. Et donc, faut garder en tête qu'on devrait être au moins, juste pour pas être en dette oxydative, dans le genre de dette inflammatoire. Nos comportements à tous les jours sont très pro-inflammatoires. Et donc, on a besoin d'une diète anti-inflammatoire puis antioxydante pour juste compenser la vie de tous les jours. So, on a besoin d'au moins 10 000 unités d'antioxydants par jour juste pour sortir de la dette oxydatif. On devrait probably aimer pour 20 à 30 000 unités d'antioxydants au moins. On peut commencer par manger des plantes avec des couleurs, avec une variété de couleurs, sachant qu'il y a 1900 ou 1900 unités d'antioxydants dedans une tasse de bleuets seulement. C'est tout. À tous les jours, on a des millions de cellules cancéreuses qui se forment chaque jour. Puis notre système immunitaire, ben, tu sais quoi, il échappe la balle une fois de temps en temps. Puis cette journée-là que votre système immunitaire échappe la balle, puis qu'il y a une cellule cancéreuse qui s'échappe de les prises de la protection de votre système immunitaire, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette cellule cancéreuse-là est en train de baigner dans un sang, dans votre sang, puis hopefully, cette journée-là, votre sang aura des concentrations d'antioxydants, puis de composés phytochimiques, puis un genre de sang anti-inflammatoire, antioxydant, pour que vous ayez une chance de combattre cette cellule cancéreuse-là. De base, regardless quelle sorte de cancer que vous voulez combattre, gardez en tête que d'avoir une nutrition qui est, tu sais, à base d'une variété, une diversité de plantes qui sont riches en composés anti-inflammatoires puis antioxydants, ça c'est la fondation d'une nutrition qui est, c'est là, anti-cancéreuse. C'est aussi qu'on regarde spécifiquement au niveau du cancer du côlon. Du cancer du côlon est le deuxième tueur chez les femmes et les hommes. Si on veut commencer par simplement réduire notre risque de cancer du côlon, ayez un genre de diète qui a prédominance de plantes, qui sont riches en antioxydants, en composés anti-inflammatoires, qui sont bas en viande rouge transformée, puis en viande rouge. Puis il faut aussi garder en tête qu'il y a certaines études qui associent même le risque de cancer du côlon avec la consommation d'œufs. Il y a une étude en particulier qui a montré que 5 œufs ou plus par jour augmente le risque de cancer du côlon de 19%. À cette heure-là, on ne sait pas, c'est-tu parce que les gens qui mangent plus d'œufs mangent moins de plantes? C'est-tu les œufs eux-mêmes qui génèrent ce risque-là ou c'est le fait que les œufs déplacent d'autres aliments plus santé? Bonne question, ça demeure à être déterminé, ça. Au niveau des produits laitiers, ben, on sait que les produits laitiers ont possiblement un effet protecteur au niveau du cancer du côlon à cause de leur contenu en calcium. Mais les produits laitiers sont still une source vraiment importante de gras saturé puis de IGF-1. Qui a de l'air à augmenter le risque de d'autres cancers puis de maladies cardiovasculaires. Sauf simplement de faire un switch du lait de vache vers le lait de soya est probably une great idée parce que les laits à base de plantes maintenant sont aussi fortifiés en calcium, contiennent la même quantité de calcium que les laits à base de vache, ont pas de gras saturé, n'ont pas de IGF-1 puis ont du fibre que le lait de vache n'a pas. Et le fibre a été montré de réduire le risque de cancer. Il y a certaines études qui montrent même que si on compare des gens qui mangent 35 grammes de fibres versus des gens qui mangent moins de 15 grammes de fibres par jour, il y avait une réduction de 40% du risque de cancer chez les gens qui mangeaient 35 grammes de fibres ou plus. On sait que les gens qui ont une diète à prédominance de fruits, de légumes, de grains entiers, de noix, puis de légumineuses comme des beans, des pois chiches, des lentilles, des produits à base de soya, font moins de cancer. Et donc, on sait qu'il y a certains aliments spécifiquement, puis certains genres de patterns de diète qui sont soit protecteurs pour le cancer ou qui augmentent le risque. Puis il y a aussi certains nutriments spécifiquement qui sont associés au cancer. Les taux de cancer du côlon corrèlent avec les taux ou les concentrations de gras saturés et de protéines animales dans la diète des gens. Puis les cancers du côlon corrèlent inversement avec la quantité d'antioxydants, de fibres puis de composés phytochimiques dans la diète. Garde en tête que pour avoir un genre de colon en santé, les deux main prédicteurs sont la quantité de fibres puis la diversité de fibres. Ça, ça génère un microbiome qui est résilient, qui est varié, avec des bonnes bactéries en quantité assez haute pour promouvoir un milieu, un environnement anti-cancéreux, mais aussi anti-inflammatoire. Si on a un microbiome en bonne santé, le microbiome va fermenter les fibres, qu'on appelle les prébiotiques. Les bactéries eux-mêmes sont les probiotiques. Donc, les probiotiques naturels de l'intestin, les bonnes bactéries, fermentent les prébiotiques, qui sont les fibres. Puis ensuite, produisent des postbiotiques, qui sont des acides gras libres à chaîne courte ou des short-chain fatty acids, qui ont eux-mêmes des effets puissants anti-inflammatoires puis anti-cancéreux. Et donc, c'est vraiment important. Si vous voulez prévenir le cancer du côlon, vous avez besoin d'une diète variée en plantes qui contient assez de fibres, qui contient les composés anti-inflammatoires puis antioxydants qu'on voit dans les différentes sortes de couleurs de plantes. On sait qu'il devrait avoir plus de produits de soya parce que les produits de soya ont été associés à une réduction du risque de cancer du côlon. On devrait aussi avoir un dietary pattern, un régime alimentaire qui promouvoit un poids santé, sachant que l'obésité lui-même est un facteur de risque du cancer du côlon. Puis on sait que les régimes à prédominance de plantes sont naturellement faibles en densité calorique. Donc les gens sont plus facilement en déficit de calories, atteignent plus facilement un poids santé. Donc ça fait toute partie de ce qu'on peut faire au niveau de la nutrition pour être capable de réduire notre risque, de prévenir le cancer du côlon. À ce 10 ans que vous êtes là, au fait 50 ans, ben à ce point ici, il ne faut pas juste focusser sur la prévention, il faut focusser sur le dépistage, puis aussi un diagnostic à un stade précoce si qu'on veut une chance de survivre. Et donc, le dépistage inclut ce qu'on appelle un FIT test ou une colonoscopie. Au Nouveau-Brunswick, le FIT test, à partir de 50 ans, si vous avez un Medicare valide, vous pouvez vous inscrire à un programme gouvernemental de dépistage. Jusqu'à tous les 2 ans, vous allez recevoir un FIT test par la poste. Ce FIT test-là inclut un échantillon de sel qui va être analysé pour du sang. Puis si le sang est positif, ben ça pourrait être un signe d'un polype qui est plus avancé, qui est peut-être précancéreux. Et donc, si votre FIT test est positif, qui veut dire qu'il a dépisté du sang qui vient de votre intestin, ça va mériter une colonoscopie pour aller voir la cause de ce sang-là. Il peut avoir des faux positifs, des gens vont avoir des fissures ou des hémorroïdes qui vont saigner ou d'autres conditions qui pourraient donner un test faux positif. Mais c'est une des meilleures manières de dépister le cancer du côlon lorsque le polype est dans un genre de stade précancéreux avant qu'il soit trop tard. Pour les gens qui le désirent ou pour les gens qui ont des antécédents familiaux de polype ou de cancer ou des antécédents personnels de polype, la meilleure manière de se faire dépister, c'est avec une colonoscopie. Durant la colonoscopie, il y a une caméra qui est insérée au niveau du côlon puis qui visualise directement les polypes. Si il y a un polype qui est vu, il peut être enlevé durant la procédure. Et donc, c'est pas juste une technique diagnostique, c'est aussi une technique thérapeutique où ce que le polype lui-même peut être excisé durant la procédure. Et donc, si qu'on excise le polype, il n'y a jamais de chance qu'il va devenir cancéreux dans les années futures. Et donc, faites sûr d'aller chercher votre dépistage, faites sûr d'en parler avec votre médecin. Si vous avez des antécédents personnels de polype ou des antécédents familiales de polype ou de cancer du côlon, ça se peut qu'on doit vous dépister 10 ans avant l'âge du diagnostic, c'est les membres de la famille. So, parlez-en avec votre docteur. But la responsabilité de prévenir le cancer du côlon est la vôtre. Le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes et chez les hommes, après le cancer du sein chez la femme, puis après le cancer de la prostate chez l'homme. Puis parce qu'il est dans le genre de l'ombrage de ces deux cancers-là, on en parle un peu moins. Mais c'est un cancer qui est capable d'être diagnostiqué à des stades précoces où ce qu'on peut changer l'outcome. Les gens peuvent survivre si on le pogne tôt assez. Mais le cancer du côlon, une fois qu'il est avancé, il peut commencer à donner des blocages, de la constipation, un changement des habitudes intestinales. Des fois, il va suinter à bas bruit, saigner à bas bruit, puis les gens vont avoir une chute de leur hémoglobine. Ça va peut-être être pogné sur une prise de sang, que les réserves de fer sont basses. Peut-être que les gens vont se sentir fatigués, puis ça va être la première manifestation d'un cancer du côlon. Peut-être que les gens vont avoir mal au ventre ou un changement dans leur digestion. Parlez-en avec votre médecin des différents signes et symptômes qui peuvent annoncer un cancer du côlon qui soit c'est plus avancé, parce que vraiment le pogner à un stade précoce est la pierre angulaire de guérir ce cancer-là avant qu'il y ait des causes ou des conséquences drastiques. Right on. I hope que ça fait le tour du cancer du côlon. Au niveau de la prévention, c'est simple. Manger plus de plantes, manger des composés qui sont anti-inflammatoires, donc une variété de plantes d'une variété de couleurs. Essayez d'obtenir au moins 80% de vos calories qui proviennent de plantes entières, minimalement raffinées, transformées. Essayez de réduire la quantité de calories, le montant de calories qui vient de ultra processed food. Essayez aussi de réduire les portions de viande rouge ou de viande transformée, parce qu'ils ont été directement associés avec une augmentation du risque du cancer du côlon, même à des petites doses, 50 grammes pour les viandes transformées, 100 grammes pour les viandes rouges. Puis le problème est que les gens mangent régulièrement des doses bien plus grandes que ça, de façon consistante pour des années. Puis c'est probablement pour ça que le cancer du côlon est le deuxième top cancer chez les hommes et chez les femmes. Right on. I hope que ça a été pertinent pour vous autres. I hope que vous preniez votre santé en main, puis que vous faisiez des changements au niveau de la nutrition si vous sentez qu'il y en a besoin qui se font. Prenez votre dépistage au sérieux aussi. Parlez-en avec votre docteur. Puis I hope que ça peut vous aider, ça ici, à prévenir un cancer du côlon ou de le pogner à l'avance ou ce qu'on peut le guérir. All right? Right on. Merci beaucoup pour écouter. On se voit bien au next épisode. Bonne journée. Peace. Hey les amis, n'oubliez pas d'aller visiter mon site web plantbasedrjules.com, parce que c'est là que vous allez trouver les liens pour télécharger mon livre gratuit de recettes, ainsi que plusieurs autres ressources gratuites qui pourraient vous aider à transitionner vers une alimentation plus saine. Vous allez aussi y trouver les liens pour mon post YouTube, mon blog, mes cours en personne, mes cours virtuels et tous les autres épisodes du podcast. Rappelez-vous que la meilleure manière de montrer votre support, c'est simple, c'est aller sur Apple ou Spotify Podcast, puis de me laisser une revue 5 étoiles. Merci infiniment pour votre support. Merci de prioriser votre santé. Peace!